France Inter.
The deal on minerals. It was prepared by teams. It was not simple during weeks. And now it's ready. I think the countries have to sign, the ministers have to sign. And this will be the step, first step to security guarantees. But it's not enough.
Volodymyr Zelensky sur Fox News hier soir. Il y défend le deal sur les terres rares avec les Américains. Il dit vouloir le signer malgré tout. Ce deal, ce serait pour lui la première étape d'une offre de paix, mais ce ne sera pas suffisant, dit-il. Une interview étonnante après son altercation historique avec Donald Trump dans le bureau ovale. Le tout sans signer ce fameux accord négocié justement depuis des semaines. Les États-Unis en faisaient pourtant un préalable pour se rembourser de cette guerre. Lorsqu'on évoque les terres rares. On parle en réalité de 17 éléments cruciaux tels que le néodyme, le dysprosium, le terbium, ces métaux indispensables à la fabrication de tout, allant des appareils électroménagers aux systèmes d'armement sophistiqués. On comprend donc aisément pourquoi les États-Unis manifestent un intérêt si marqué, surtout que les Chinois sont très en avance. Mais gare au mirage, si l'Ukraine dispose de ressources géologiques prometteuses, aucune exploitation de terres rares n'existe à ce jour dans le pays. Pire, les estimations sur ces gisements sont floues, parfois héritées d'études soviétiques dont la fiabilité est discutable. Autre défi de taille, l'Ukraine est un pays en guerre, exploiter ses ressources nécessite des infrastructures lourdes, des investissements colossaux. Ce potentiel fait en tout cas rêver beaucoup de monde, y compris la France, selon le ministre des Armées. Nous avons aussi engagé des discussions avec Kiev sur l'accès aux terres rares pour soutenir notre secteur de la défense. Mais derrière ces tractations, une question se pose ce matin. Exploiter ces ressources au seul profit d'intérêts étrangers reviendrait-il à priver le pays d'un levier essentiel pour son avenir? Vous avez 2 heures pour répondre à cette question.
On n'arrête pas l'écho. Emmanuel Duteil sur France Inter.
Bienvenue dans votre Mag'Écho, très heureux de vous retrouver. Rassurez-vous, Alexandra Ben Saïd revient dès le week-end prochain. Je vous présente l'équipe de cette semaine. Valentin Pérez a préparé avec moi cette émission. Joseph Ascal est notre chasseur de son à la réalisation, Charles de Silia et Étienne Bertin. Le mixage a été fait cette semaine par Selim Guérébi. Et à la console, là, juste derrière la vitre devant nous, Loïs Moreau. Alors ce matin, on va plonger dans l'univers du parfum. Comment se porte ce marché en pleine mutation? La France reste-t-elle un acteur clé face à une concurrence internationale féroce? Quelles pourraient être, tiens, les conséquences d'éventuelles taxes douanières aux États-Unis décidées par Trump? Pour en parler, notre invité Philippe Bénassin, président directeur général d'Interparfum. Alors ce groupe ne vous dit sûrement rien, pourtant vous connaissez certaines de leurs marques, Lacoste, Montblanc, Boucheron. Un chiffre m'a aussi bluffé cette semaine. Chaque semaine, 2 nouvelles marques de cosmétiques naissent en France. 2 nouvelles marques. Comment expliquer un tel dynamisme? Parviennent-elles à se faire une place sur un marché très encombré? La cosmétique, un marché qui doit se réinventer au moment où les consommateurs cherchent plus de naturel et moins de plastique. On saura tout grâce à notre reporter Anaël Verzo. Et puis tiens, une fois que l'on sera crémé et parfumé, on retrouvera Madame Vie au boulot. Bonjour Sandrine Foulon.
Bonjour Emmanuel, bonjour tout le monde.
Allez, on parle de quoi ce matin? Je crois de retraite, hein?
Oui, avec une question de Stéphanie, elle voudrait savoir tout simplement pourquoi les femmes fonctionnaires ont moins de majoration de trimestre pour enfants que les salariés du privé.
Eh bien, on va essayer de lui répondre et pour cela, on vous retrouve bien évidemment en fin d'émission. Bonjour Marie Dansert.
Bonjour Emmanuel Duteil, bonjour à toutes et à tous.
Vous êtes journaliste au service économie du journal La Croix. Bonjour Laïla Abou.
Bonjour.
Vous êtes la patronne du bureau parisien du Financial Times. Alors, simplification des procédures en Europe, pacte pour relancer l'industrie, l'heure ou vraie mesure au moment où Donald Trump promet d'imposer des droits de douane de 25% sur les produits européens. Voilà les thèmes de notre débat éco du jour.
Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne.
Ainsi, une flotte d'omnibus ciblera les excès de formalité et la charge administrative dans un certain nombre de domaines. Je veux également être très claire. Nos objectifs climatiques et sociaux restent inchangés. parce que vous, les industries, avez besoin de prévisibilité.
Soit on court après les États-Unis,
Sophie Binet,
et la grande politique de déréglementation d'Elon Musk et Donald Trump,
secrétaire général de la CGT.
Soit on affirme le modèle européen et on le protège. Avec cette directive Omnibus, l'Europe veut tirer tous les droits sociaux, environnementaux et fiscaux vers le bas. Elle veut permettre aux multinationales de faire ce qu'elles veulent en Europe et dans le monde entier. C'est très grave.
Nous, ce qu'on dit, c'est on a fait voter des textes.
Benjamin Haddad, ministre délégué chargé de l'Europe.
Il ne s'agit pas de se débarrasser de ces textes, il s'agit de les simplifier, de les rendre plus applicables. Mais nous avons demandé avec mes collègues de suspendre et de lisser les amendes pour mettre un peu de bon sens dans la façon dont on le met en œuvre.
Donald Trump, président des États-Unis.
Nous avons pris une décision. Ce sera 25% de droits de douane. Ça concernera les voitures et tout le reste. Nous avons un déficit d'environ 300 milliards avec l'Union européenne. L'Union européenne a été formée pour entuber les États-Unis. C'était le but recherché. Et ils ont bien réussi à le faire. Mais maintenant, c'est moi le président.
L'Union européenne est peut-être l'ennemi parfait pour Donald Trump et sa coalition.
Joseph Devecq, expert associé à l'Institut Montaigne.
Et l'Union européenne, d'une certaine manière, est une opposition parce que c'est une puissance régulatrice et c'est aussi une organisation qui protège un peu une démocratie libérale en Europe. Alors, je dirais presque que l'Union européenne, pour Trump, c'est une espèce de Greta Thunberg, mais avec une politique commerciale et une politique d'anticompétitivité.
La négociation avec Donald Trump, elle n'est pas possible tant qu'il n'y a pas un rapport de force.
François Hollande, ancien président de la République.
Il ne comprend que le rapport de force. Donald Trump, il ne réagit que par rapport au portefeuille, par rapport à l'argent. Et bien nous, les Européens, et les Français doivent être en première ligne, nous devons lui faire mal, très mal.
Eh bien, on va regarder tout ça, mais simplifier un tel est le mot d'ordre de la nouvelle Commission européenne qui voit dans la lourdeur administrative un frein à notre compétitivité. Ce mercredi, elle a présenté sa loi Omnibus. C'est son tout petit nom, une loi où on ne comprend pas grand-chose ce que ça veut dire si on regarde comme ça, qui vise à assouplir certains textes emblématiques du pacte vert, comme la CSRD et le devoir de vigilance des entreprises. La Commission a aussi présenté un plan spécifique pour soutenir l'industrie. Je vais commencer avec vous, Marie, par la photo et le cadre. C'est une tradition dans cette émission. C'est quoi déjà une loi Omnibus ? Et puis dites-nous aussi quand même un petit mot de ce texte pour l'industrie.
Oui, alors je vous propose un peu de cuisine européenne. Pour faire une loi Omnibus, qu'est-ce qu'on fait ? On prend plusieurs réglementations européennes qui sont déjà existantes, on les rassemble dans un seul texte, la loi Omnibus, et on lui donne à cette loi un objectif assumé et affiché de simplification. Alors mercredi, il y a deux textes en particulier qui ont beaucoup fait parler d'eux. D'abord la CSRD, alors c'est horrible, on va parler de loi durabilité, parce qu'il s'agit pour les entreprises de publier un rapport de durabilité sur leurs enjeux climatiques, sociaux et de gouvernance. Et c'est original parce qu'il faut à la fois dire comment l'entreprise est impactée par son environnement et comment l'environnement impacte l'entreprise.
Et ça fait 700 pages.
Ça fait 700 pages, on y reviendra. Le deuxième texte qui a beaucoup fait parler lui aussi, c'est le devoir de vigilance. Dans sa version initiale, il impose aux multinationales de veiller au respect des droits humains et de l'environnement sur toute la chaîne de production, donc jusqu'à votre fournisseur ultime. Ça existe en France depuis 2017. Alors, la loi Omnibus veut simplifier. On l'a entendu, les ONG, les syndicats sont vent debout parce qu'ils considèrent qu'on est en train de reculer sur les ambitions environnementales et sociales de l'Europe. On parle je vous propose aussi de parler rapidement du plan pour l'industrie propre. On a une concurrence chinoise et américaine qui est croissante, qui est de plus en plus brutale. Donc on va soutenir et verdir l'industrie européenne. Ça passe par plusieurs mesures, je vous en dis les principales. Une banque de la décarbonation qui pourra lever de l'argent jusqu'à 100 milliards. Une aide aux secteurs qui sont très gourmands en énergie, l'acier, l'aluminium, le ciment. On va faire baisser les prix de l'énergie. On va essayer en tout cas parce qu'on la paye 2 à 3 fois plus cher en Europe qu'aux États-Unis. Et on va introduire une préférence européenne dans les marchés publics. Ça, c'est une vraie nouveauté.
Une vraie nouveauté. Là, voilà le cadre. Vous pensez que la méthode est la bonne ?
Je dirais oui, mais... l'annonce de cette semaine est positive, mais le processus pour le mettre en œuvre va prendre très longtemps. Il faut que ça passe par le Parlement européen, qu'il y ait un certain nombre d'États membres qui seront d'accord. Comme tout au niveau européen, c'est très lourd et c'est très lent. Et tout ça, ça se passe à un moment où la concurrence internationale est en train de s'intensifier. Il y a un régime en place aux États-Unis qui veut déréguler tout et imposer un nouveau modèle de capitalisme qui est basé vraiment sur le protectionnisme pur et dur des tarifs douaniers dans tous les sens. Et franchement, ça va basculer chamboulé, je sais pas si j'ai basculé, mais chamboulé l'économie mondiale. Alors, du coup, on sait pas exactement comment ça va changer, mais ça va changer et ça va changer vite. Et comme d'habitude, en Europe, on est lent. Je dirais aussi qu'il est important de souligner que cette annonce est un vrai volte-face. C'est pas quelque chose, et c'est une volte-face sur une idée que l'Union européenne vient de mettre en place il y a même pas 2-3 ans.
Le pacte vert. C'est une sorte de mea culpa aussi de dire on s'est foiré.
Enfin, je ne sais pas. Oui, je dirais oui. Mais c'est fait. On peut pas juste dire que c'est les Européens qui changent d'avis sur le climat, ou au moins la tentative d'aller vite en imposant des contraintes sur les entreprises, parce que c'est un mouvement qui se passe aussi aux États-Unis. On a eu une espèce de retour de bâton aux États-Unis, un backlash, comme on dit en anglais. Aux États-Unis, il y a aussi un mouvement où moins d'entreprises veulent faire ça. Les investisseurs des grands fonds de pension qui poussaient cet agenda pour le reporting climatique et tout ça, comme BlackRock, eux aussi, ils se retirent un peu de cette démarche-là. Du coup, l'Europe n'est pas tout seul.
Ouais, l'Europe n'est pas tout seul. Marie, la Commission, elle espère générer des milliards d'euros d'économies, permettre, je crois, 50 milliards d'euros d'investissements supplémentaires, en partie grâce à ces assouplissements et également au volet sur l'industrie dont vous parliez. On y croit ?
En fait, moi, ces calculs, ça me laisse toujours dubitative. En plus, ils ne précisent pas sur quelle durée tout ça va s'opérer. Moi, j'ai deux commentaires sur ces chiffres. D'abord, je rapporte ces 50 milliards aux 800 milliards d'euros d'investissements supplémentaires chaque année que préconise le rapport Draghi. Donc, on n'est pas au rendez-vous. Et puis, pour moi, le point intéressant peut-être de l'industrie, là, du plan pour l'industrie, c'est cette introduction d'une préférence européenne sur les marchés publics. On va enfin avoir une dose peut-être de protectionnisme, de protection de nos acteurs industriels européens. Et c'est très bien. Le problème, et là je rejoins Léla.
Ça reste souvent assez limité quand même.
Alors c'est ça le problème, et je rejoins Léla, ça va être lent parce qu'on va commencer à en discuter en vue de 2026.
Et sans compter si on prend ce qui a été décidé sur l'aluminium par exemple, on le décide, nous une fois on n'a plus besoin d'aluminium.
On n'est pas au rendez-vous et on verra les critères de décision. Je rappelle juste que les États-Unis, effectivement, puisqu'on aime bien regarder outre-Atlantique, depuis 2022, il n'est plus possible d'importer des produits qui viennent de la région où vivent les Ouïghours parce qu'on sait qu'il y a du travail forcé. Et ben voilà, c'est fait aux États-Unis. Et est-ce que quelqu'un va critiquer cette loi? Je ne crois pas. Donc c'est très intéressant de regarder ce côté-là des États-Unis.
Laïla, quand on a un peu préparé cette intervention, on vous voyait très dubitative. Je vais reprendre les mots que vous utilisez de temps en temps dans ces débats dont n'arrête pas l'écho. C'est du bullshit ?
Je pense que les chiffres sur, comme Marie vient de dire, sur la croissance qui peuvent être générées, c'est effectivement du bullshit à mon avis. Parce que les entreprises n'investissent pas uniquement à cause d'une subvention éventuelle qu'ils vont avoir dans 5 ans. Je vais vous donner juste un seul exemple. Vous avez l'industrie de l'acier au nord de la France où il y a ArcelorMittal avec un énorme usine de production là-bas. Et le gouvernement français, je pense que c'était l'année dernière, a promis une grande subvention.
Plus d'un milliard, 1,7 milliard, je crois.
Le projet est 1,7 milliard et la subvention, ça va jusqu'à 850 millions. Alors du coup, c'est beaucoup. Et même avec cette subvention, même avec cette subvention qui est promise, récemment, fin de l'année dernière, ArcelorMittal a dit, on met ce projet en pause parce que la conjoncture économique, les tarifs, tout ça dans notre industrie...
Ils disent aussi parce que l'Europe ne nous donne pas de perspective claire.
Ils ne savaient pas, en fait. Il y avait trop d'incertitudes sur d'autres facteurs, ce qui veut dire que même la subvention qui est sur la table, ils ne vont pas faire le projet s'ils n'ont pas juste un cadre plus stable pour leur business. Du coup, ça vous montre que les chiffres un peu en l'air...
Mais vous diriez que c'est de la com un peu en ce moment quand même?
Oui, mais c'est comme ça que ça fonctionne aussi. C'est le fonctionnement des institutions, de
c'est
donner un cap.
C'est la com ou des symboles?
Oui, si ensuite ça se concrétise. Moi, je suis un peu dubitatif du fait que ça va se concrétiser suffisamment rapidement pour changer la donne.
On va prendre peut-être un exemple, si vous le voulez bien, Marie, l'exemple de la CSRD. Alors, pour ceux qui ne seraient pas familiers, même si je vous renvoie un excellent billet de l'Alexandra Ben Saïd il y a quelques semaines là-dessus, c'est ce qu'on appelle le reporting extra-financier des entreprises. C'est une bonne chose de le simplifier, parce qu'on entend des voix, notamment des entreprises françaises, je pense au MEDEF, qui dit « ça ne va pas assez loin ».
Alors, simplifier, il faut savoir pour faire quoi et à quel prix. Pour faire quoi? On nous explique que c'est pour soulager les entreprises. Je pense que tout le monde est d'accord sur l'idée. Hein. Et surtout que les partisans de la première version de la CSRD reconnaissent qu'elle est allée trop loin, qu'elle a fait de l'excès de zèle. Ils ont fait des propositions de simplification. Là, le problème, c'est que la Commission européenne, en fait, a pris des mesures qui dénaturent le texte. Alors, on reporte le calendrier, on réduit de 80% le nombre de nouvelles usines entreprises concernées. Mais surtout, on casse un mécanisme qui entraînait quelque chose de vertueux. On faisait faire la CSRD CSRD par les grandes entreprises, les moyennes et les plus petites. Ça, c'est cassé.
Mais pour vous, ce serait un recul qui est négatif ?
Alors oui, c'est un problème parce que c'est une opportunité, la CSRD, au-delà de ses défauts de fabrication. Et ce n'est pas moi qui le dis, ce sont des entreprises de taille intermédiaire qui devaient être concernées là, au 1er janvier 2024. Ces entreprises de taille intermédiaire, je suis allée les rencontrer. Vous pouvez lire leur témoignage dans La Croix de mercredi, je fais un peu de pub. Et elles me racontent toutes que c'est une opportunité, y compris celle qui était la moins enthousiaste au début, qui l'a fait parce que c'était une loi, donc elle ne l'aurait pas fait volontairement sans la loi. Elle s'y est préparée en amont. Mmh. Et ce qu'elle me raconte, c'est que c'est un mode d'emploi pour identifier ces risques.
Si c'est tellement bien, ils peuvent continuer. Hein, s'ils sont
alors,
pas...
en l'occurrence, toutes les entreprises...
Moi, j'ai lu dans le Financial Times, il y a quand même pas mal de boîtes qui disent « c'est pas très bien ».
Non, non, oui, bah écoutez... Moi, je suis allée interroger des boîtes sur le terrain et elles me disent qu'elles y ont trouvé un mode d'emploi, qu'elles ont trouvé des angles morts dans leur stratégie, qu'elles vont commencer, par exemple, à électrifier leur parc de machines, à décarboner, que ça va unifier les normes à l'échelle européenne parce qu'aujourd'hui, tous les pays ont des normes et que ça, c'est un problème. Et que c'est une aide pour trouver des financements parce que les investisseurs sont demandeurs d'y voir clair sur qui fait quoi et de ne pas faire de greenwashing. La CSRD, la durabilité, ça empêche le greenwashing.
Laïla, c'est ce que vous entendez aussi ?
Je ne sais pas. Moi, j'ai un débat à l'intérieur de moi-même depuis
livrez-nous, faisons de la philosophie et de la psychologie ce matin, 9h29.
Est-ce que c'est vraiment une bonne idée d'empêcher ou de contraindre les entreprises de faire la transition climatique? À quel prix? Comment est-ce qu'on le fait? J'étais frappée par un commentaire qui a été fait par le ministre des Finances, Éric Lombard, il y a quelques semaines, qui a choqué pas mal de monde dans le monde d'entreprise. Où, en gros, il a dit que pour faire la transition écologique qui est très importante, il faut accepter que certaines entreprises vont être obligées de faire des projets qui ne sont pas rentables dans un premier temps, et qu'il faut accepter ça. Enfin, je ne sais pas si c'est... Moi, ça m'a choquée quand il a dit ça, franchement, parce que je pense que j'ai réagi avec un vue peut-être anglo-saxon de ça, qu'un ministre de la Finance ne devrait pas dire ça. Mais il a aussi un peu raison, et moi, je suis un peu travaillée par ce débat. Les objectifs sont louables, peut-être du CSRD, mais l'effet économique peut être franchement mauvais.
Si vous faites une loi... Toutes les entreprises sont obligées au même moment de le faire. Donc, s'il y a un boulet, il est valable pour toutes les entreprises.
Est-ce que c'est un boulet intéressant. Qui est pointé par les
entreprises ? Il faut aussi voir le prix de la simplification. Parce que si vous ne faites rien, le Boston Consulting Group, qui ne sont pas des dangereux gauchistes, ont chiffré qu'une entreprise qui ne fait rien peut perdre jusqu'à 25% de son bénéfice en cas de changement climatique, ce qui va évidemment se produire, ce qui est en train de se produire, et qu'il y aura un recul de PIB de 20% aussi.
Mais est-ce qu'on ne se met pas quand même des boulets au pied au moment où Donald Trump, cette semaine, a dit, alors c'est flou, on n'a pas le calendrier, on n'a pas les secteurs, ce sera 25% de droits de douane, Marie.
Je veux juste dire aussi que le devoir de vigilance, c'est très important, parce que c'est la protection du modèle européen aussi, comment on accepte que les choses, les biens que vous achetez sont produits, et donc de surveiller tous ces fournisseurs, c'est extrêmement important.
Non, mais là honnêtement, droit de voir, j'ai même pas de débat avec moi-même, ça c'est juste un peu bête. Ça va vraiment trop loin, je vais vous donner un exemple très rapidement, qu'on a fait les travaux dans le bureau du FT l'année dernière, comme il y a cette règle à Londres, où notre QG se retrouve, on a passé 4 semaines à valider l'architecte qui allait faire les travaux dans notre bureau pour vérifier qu'il n'y avait pas d'esclavage. Enfin, je ne sais pas, je pense que la probabilité qu'il y a des esclavages qui a lieu à Paris, c'est peut-être un peu
mais
bas.
Mais justement, il y a une présomption, quand on travaille avec des fournisseurs qui sont dans des états de droit, il y a des présomptions
Ça va beaucoup trop loin.
Est-ce que ça va trop loin pour des entreprises qui font travailler d'autres entreprises en Asie que vous ne connaissez pas, dont vous ne savez pas ce qui se passe?
Si cette entreprise arrête de produire en Asie, les consommateurs vont acheter des produits qui sont fabriqués en Asie sans ces règles.
Eh ben, d'où l'intérêt de faire des règles internationales qui mettent tout le monde sur le même plan.
Je veux bien, mais on n'habite pas chez les bisounours. Il n'y a pas des règles comme ça en Chine ou aux États-Unis.
Alors, la Chine est en train d'adopter de telles règles. C'est exactement ça l'erreur. Et notamment sur la CSRD, la Chine est en train d'adopter une règle qui ressemble beaucoup à la règle européenne. Il ne faut pas se tromper.
Je suis sûr qu'on va y revenir sur ces questions. Merci Laïla Abou, responsable du bureau parisien du Financial Times. Merci Marie Dancer, journaliste au service économie du journal La Croix. Bravo à vous, c'était votre tout premier débat éco et je suis sûr qu'on vous retrouvera du coup très vite.
Real decreto ley para la ampliación de derechos de los trabajadores.
Chaque semaine, un correspondant nous décrypte un fait économique qui raconte l'économie de son pays.
Chaque année,
Je suis sûr que vous avez tous reconnu le porte-parole du gouvernement japonais qui s'exprimait cette semaine sur la baisse de la natalité. Bonjour Karine Nishimura.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes notre correspondante au Japon. La crise de la natalité bat tous les records sur place. Les naissances sont tombées l'an dernier à un plus bas historique. C'est simple, hein, c'est du jamais vu depuis que le gouvernement a commencé à enregistrer ces données en 1899. Une chute qui semble sans fin dans un pays qui ne cesse de voir sa population vieillir, Karine.
Oui, en effet, seulement quelques 721 000 bébés sont nés au Japon en 2024. L'Institut national de la démographie prévoyait un total tombant à ce niveau vers 2039, pas en 2024, avec 15 ans d'avance. La dénatalité n'est pas un problème nouveau au Japon. Elle dure depuis près de 5 décennies, mais elle s'accélère tandis que la proportion de personnes âgées augmente sur une population totale qui, elle, diminue. La pyramide des âges est donc à l'envers.
Alors pourtant, le gouvernement a pris encore récemment des mesures fortes pour relancer la natalité, mais ça ne fonctionne pas du tout.
Et non, ça ne fonctionne pas parce que c'est trop tard. Le nombre de femmes en âge de procréer est devenu insuffisant. Il aurait fallu agir bien plus tôt et plus fort. Les autorités ont traîné et choisi d'augmenter progressivement les diverses aides financières, mais dans des proportions pas assez massives pour changer la donne. De plus, les allocations et soutiens sont concentrés depuis trop longtemps sur la toute petite enfance, alors que le problème financier survient surtout quand les enfants vont au lycée ou à l'université, ce que les couples, eux, anticipent. Il n'y a pas d'aide pour le loyer non plus, or c'est un facteur devenu décisif pour agrandir ou non une famille quand on habite en ville. Enfin, et peut-être surtout, les mesures contre la dénatalité ne sont souvent pas en phase avec l'époque. Même quand est offerte la possibilité d'une semaine de 4 jours pour laisser plus de temps au couple, le risque pour chacun est de devoir faire en 4 jours ce que l'on faisait en 5 en raison de la pénurie de personnel. Les aspirations des femmes aussi ont changé. Elles veulent plus de liberté, même une fois mariées, une meilleure vie professionnelle, même quand elles ont des enfants, et non être à temps partiel contraint ou à la maison pour s'occuper des petits.
Merci beaucoup Karine Nishimura, correspondante de France Inter au Japon. Il est 9h35, dans moins de 10 minutes, l'invité du Mag'Éco sera Philippe Bénassin, président directeur général d'Interparfum. Ce groupe ne vous dit rien, pourtant vous connaissez forcément leur création, Lacoste, Montblanc, Boucheron. Comment se porte ce marché en pleine mutation? On en parle donc dans moins de 10 minutes. Un autre secteur, regarde par exemple les taxes aussi qui vont arriver de Donald Trump avec intérêt, c'est celui des cosmétiques. Un secteur qui ne cesse de se réinventer. Imaginez, moi j'ai été bluffé par ce chiffre, 2 nouvelles marques de cosmétiques naissent en France chaque semaine. Comment expliquer un tel dynamisme? Parviennent-elles à se faire une place sur un marché très encombré? La cosmétique, un marché qui doit se réinventer au moment où les consommateurs cherchent plus de naturel et moins de plastique. Notre reporter Annel Verzo est allé à la recherche découvrir une de ces marques qui s'est lancée il y a environ un an.
On rentre à l'intérieur du laboratoire Nami Beauty. Alors là, il y a des machines qui sont disposées. Qu'est-ce que c'est, Naomi ?
On cultive nous-mêmes nos espèces de microalgues d'origine marine qu'on retrouve sur les côtes atlantiques et méditerranéennes de France. Mmh. Donc c'est celles qu'on a l'habitude de voir parfois dans les marais salins.
Et là, on voit des pots transparents dans lesquels vous avez mis ces microalgues, j'imagine. Enfin, on voit la couleur, cette couleur un peu rose, bordeaux, en fait.
Un peu en jus de fraise, on dirait.
Oui, c'est ça.
En fait, les algues sont en suspension dans ce liquide.
Et vous mélangez?
On essaye de répliquer un peu le mouvement qu'il y a naturellement dans les océans de par les vagues et les marées. On intègre cet ingrédient phare dans nos soins qu'on a développés, adaptés aux peaux sensibles et réactives, grâce aux microalgues. On commence à cultiver vraiment nos souches à l'échelle de laboratoire, donc des petits volumes, et qu'après on va utiliser pour transposer à l'échelle supérieure. Et c'est là après où on les fait passer en mode production dans nos réacteurs.
Vous faites tout ici?
Oui.
Jusqu'à la mise en pot?
Exactement. Oui.
Est-ce qu'on peut donner les prix?
Oui, alors on a écume, le sérum hydratant apaisant qui est à 22 euros. Mmh. Et la gelée nettoyante nage, 22,90, 100% naturel.
Vous êtes en train d'en mettre sur votre main.
Mmh. Et donc cette gelée, on vient la poser sur peau sèche. On va la masser dans la peau et elle va se transformer en huile. Mmh. On la rince à l'eau et là, ça va se transformer en lait. Le lait va entraîner avec lui toutes les impuretés de la peau. Et ce qu'on a après, c'est une peau qui est nourrie et tout douce. Donc Moi, j'ai étudié la biochimie et les biotechnologies à l'Université de La Rochelle. Et donc, je me suis passionnée très vite pour les écosystèmes marins. Je viens de l'île d'Oléron, donc c'était assez logique, je pense, que ce soit vers les écosystèmes marins et les océans que je me tourne.
L'entreprise, vous l'avez créée avec votre sœur,
oui,
je crois,
c'est ça ? Ma sœur est associée.
Vous avez quel âge, toutes les deux ?
Alors, moi, j'ai 29 ans et ma sœur, elle a 27 ans. Tout le monde nous l'a dit, l'industrie cosmétique, c'est très saturé, très bouché. Vous allez vous porter à des beaucoup plus gros que vous. Est-ce que vous êtes sûr vraiment que c'est ce que vous voulez faire ? Mais nous, on n'a pas voulu en démordre parce qu'aujourd'hui, on est confiante. On sait que nos produits plaisent, nos produits sont efficaces. On a fait les tests avec les dermatologues. On est commercialisé depuis seulement 2 semaines.
Et donc, actuellement, vous en produisez combien par mois ?
On fait à peu près 100 d'unités de chaque produit par mois pour l'instant. C'est petit, hein, mais on est au lancement.
D'ici 2 ans, Naomi Villiot et sa sœur Naëlys espèrent recruter 2 employés, lancer de nouveaux produits et atteindre 100 000 euros de chiffre d'affaires. Nami Beauty, leur marque, dans le secteur des cosmétiques, on appelle ça une indie brand, une marque indépendante.
On en dénombre 2000 en France. Il se crée à peu près 2 marques de beauté par semaine.
Anne-Laure Boncoury est docteure en sciences sociales et de gestion. Elle a réalisé une étude sur les indie brands pour la Fédération des entreprises de la beauté, la FEBEA.
Ce dynamisme, en fait, il s'explique par 3 principaux facteurs. Nous avons des acteurs historiques qui sont français, des parfums bien entendu, mais également du skincare, du maquillage. Et ces marques installées permettent de stimuler toute la filière de notre industrie cosmétique. Deuxième point, c'est qu'en France, en fait, il y a une facilité de lancement pour une jeune marque qui est exceptionnelle parce qu'on a tout à nouveau, le tissu industriel français est complet. De A jusqu'à Z, vous avez donc les marques, laboratoires d'analyse, les distributeurs, tout est présent. Et donc, ce qui fait aussi qu'il y a des faibles barrières à l'entrée. Et puis, depuis 2015, l'industrie française s'est ouverte à la production de petites séries. Et puis, un atout également majeur, c'est le Made in France, avec le sourcing local et tout l'aura en fait qui entoure le Made in France et qui est un véritable critère de différenciation pour nos indie brands françaises. Et ce qui va expliquer aussi un chiffre vraiment considérable, c'est que 40% de leurs revenus proviennent de l'export.
Face au foisonnement de marques de cosmétiques, les jeunes entrepreneurs doivent se démarquer à travers leurs produits. Plusieurs niches se développent. Il y a les marques hyper spécialisées, avec des produits à base d'algues ou de fruits et légumes frais, celles qui revendiquent des formulations chimiques de haute volée, beaucoup mises aussi sur leur emballage éco-conçu, voire réutilisable. Me voici maintenant à Paris, à la rencontre de The French Beauty, un collectif qui rassemble 65 jeunes marques françaises.
Bonjour. Enchantée.
Ensemble, depuis le mois d'octobre, elles ont même ouvert une boutique dans le 2e arrondissement.
Bonjour, je m'appelle Sébastien Guerra et je suis cofondateur d'une marque de soins visage bio qui s'appelle Wiggins, que j'ai cofondée en 2013. Et depuis 2023, je suis à l'initiative de la French Beauty.
Alors, je vois parmi les produits qui sont exposés là, dans la boutique, donc sur les étagères, il y en a qui ont un paquet particulier. Je vois par exemple là, dans du papier un peu cartonné.
Le packaging, c'est hyper important. Alors, globalement, certaines marques vont plus loin que d'autres en la matière. Des marques comme Cozy, qui ne font que des emballages consignés, que l'on rapporte contre 1 euro par produit rapporté. Et la marque nettoie et réutilise l'emballage pour produire un produit neuf. Il y a aussi la marque Evolution qui récupère les packagings pour les réutiliser. Nous-mêmes en boutique, on a fait un partenariat avec TerraCycle, qui est un organisme qui se spécialise dans le recyclage spécifique catégoriel d'emballages. Et donc on lui envoie les emballages récupérés pour que lui les réutilise. Et en l'occurrence, ils sont transformés en matériel de jardin. Mais de plus en plus, c'est un peu évident pour une marque qui se lance aujourd'hui d'être responsable sur ces sujets-là. En tout cas, les marques qui postulent à notre collectif adhèrent à cette démarche très naturellement.
Sur les 30 milliards d'euros de chiffre d'affaires générés par l'industrie française des cosmétiques en 2023, seuls 5% a été généré par des indie brands, ces jeunes marques indépendantes. Le reste du paysage, ce sont de grands acteurs comme L'Oréal, Pierre Fabre, Sisley, Yves Rocher, Guerlain ou encore Clarins. Face à eux, les jeunes pousses peuvent-elles croire à leur avenir ? J'ai posé la question à Béatrice Collin, spécialiste du marché des cosmétiques. Elle est professeure à l'ESCP Business School.
Il y en a vraiment peu d'entre elles qui arrivent à rester réellement indépendantes. Et elles sont souvent rachetées par des grands groupes, tout simplement parce qu'il y a besoin d'investissements et de moyens financiers en fait, pour pouvoir faire leur développement. En fait, c'est des moyens vraiment importants parce qu'il y a vraiment cette notion de changement d'échelle en fait, qu'il faut faire à partir d'un certain moment. Changement d'échelle, ça veut dire des investissements, des moyens financiers qui sont extrêmement importants. La plupart de ces entreprises, en fait, n'arrivent pas à faire cette marge suivante. Et quand elles arrivent à le faire, en fait, on s'aperçoit que ça va être en s'adossant à un grand groupe. Par exemple, vous avez L'Oréal. L'Oréal, c'est plus de 300 marques au niveau mondial. Et sur ces 300 marques, en fait, il n'y en a que deux qui ont été créées réellement par L'Oréal. Toutes les autres marques, en fait, sont des marques qui ont été rachetées. Donc L'Oréal rachète entre 2, 3 ou 4 marques par an. Hein. C'est vraiment sa stratégie de développement. On a aussi des entreprises, alors là, c'est un peu différent, donc comme Sephora, donc un grand distributeur, bon, sachant quand même que Sephora appartient à LVMH, hein. Mais Sephora va mettre comme ça en avant certaines indies, donc sur lesquelles elle va faire de la communication, parce que bah, les indies, ça représente aussi, c'est assez mode, c'est assez stylé, c'est aussi pour tester bah, si ça va vraiment attirer une clientèle importante. Et si ça vaut à terme le coup d'investir sur elles. Ces nouvelles entreprises, leur avenir, je dirais, est un petit peu sombre dans l'absolu. En fait, on s'aperçoit qu'il n'y a que 9 sur 10 qui vont être encore présentes au bout de 5 ans.
Un marché de la cosmétique en pleine effervescence, mais face à de multiples défis. C'était le reportage d'Anna Elverzo. Bonjour Philippe Benassin, vous êtes le président directeur général d'Interparfum. Vous êtes un des acteurs majeurs du parfum sous licence, mais vous restez quand même peu connu du grand public. Si on caricature, vous créez des fragrances pour des marques qui veulent se développer dans ce secteur du parfum. On peut citer Lacoste, on peut citer Van Cleef, on peut citer Boucheron, on peut citer Montblanc. Et ensuite, vous produisez ces fragrances dans des... Alors, il paraît que chez vous, il faut dire des partenaires en France. C'est cela, le modèle d'Interparfum ?
Oui, oui, complètement. Vous avez très bien décrit les choses. On rencontre des gens qui ont une marque, je pense Jimmy Choo par exemple, ou Montblanc qu'on a rencontré dans les années 2008-2009. Les deux sociétés voulaient avoir des parfums, donc on s'en est occupé. Quand on dit qu'on s'en occupe, ça veut dire qu'on crée, on part de A à Z, de dessins, de formules, de discussions avec des parfumeurs, on crée les produits et puis on les développe à l'étranger, en France et à l'étranger.
Mais comment se nouent ces collaborations ? Qu'est-ce qui convainc ces maisons de leur confier quand même une image olfactive ? Et puis si je dois être très pragmatique, une partie de leurs bénéfices, parce qu'on sait que dans le parfum, parfois, elles gagnent quand même terriblement bien leur vie.
Oui, mais ils gagnent mieux leur vie. Alors sur la partie gagner leur vie, je pense qu'ils gagnent mieux leur vie en étant en licence, puisqu'on leur renvoie des royalties tous les trimestres, et que je ne suis pas certain qu'ils gagneraient plus que nos royalties s'ils le faisaient eux-mêmes. Mmh. Ça, c'est pour la partie business. Qu'est-ce qui les convainc ? En fait, il faut être convaincu les deux, parce que c'est un vrai partenariat. C'est des partenariats longs de 10 ans, 20 ans, 25 ans. Il faut que les marques aient une raison d'avoir un parfum.
Justement, vous venez là de signer Van Cleef jusqu'en 2033, ça assure de la pérennité. Vous n'avez pas un petit scoop à nous donner ? Il n'y a pas une marque qui arrive en plus ? Un nouveau lancement ?
Alors, Van Cleef, c'est une marque qu'on a depuis assez longtemps. On avait démarré 2007-2008 la collaboration avec eux. Et on est très proche d'eux et c'est une marque qu'on apprécie énormément, qu'on traite vraiment au plus précis.
Et les nouvelles marques qui arrivent.
Il y avait un petit scoop, c'est la marque Off-White qu'on a signée en décembre, qui est chez nous maintenant et qui va commencer à être développée à partir de, je pense, mi-26 ou début 27. En tout cas, on travaille déjà sur les parfums Off-White.
Et vous allez également développer votre propre marque que vous avez appelée Solferino. C'est pas un hasard, c'est que vous avez racheté le siège historique du PS rue de Solferino à Paris. Pourquoi tenter l'aventure vous-même d'une vraie marque à vous quand ça cartonne parfois avec celle des autres ?
Alors en fait, Solferino, ça vient pas de là. C'est qu'en ayant racheté ce fameux siège social du PS qui est extrêmement bien placé et qui est un emblème des endroits parisiens, des immeubles parisiens, on s'était dit avec la marque qu'on a et avec le fait qu'on soit à Solferino et avec l'ensemble des éléments qui sont autour quand vous visitez le lieu, vous dites au fond un parfum Solferino, ça aurait du sens, c'est Paris et c'est un emblème. D'ailleurs quand vous verrez la ligne, c'est les différents endroits de Paris pour chaque parfum.
Et vous avez des gros espoirs sur ce parfum ?
Non, 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 parce que non, mais ça veut pas dire que ça va pas marcher. J'ai des espoirs tout à fait certains, mais que c'est une ligne qui sera à petite distribution, qui sera très élitiste, très pointue, et qui sera pas forcément très largement distribuée, en tout cas pas dans un premier temps.
Vous avez présenté vos résultats annuels cette semaine. On est allé farfouiller. Tout va bien, hein, grosso modo, même un peu mieux que ce qu'on pouvait imaginer, grâce notamment à une des marques, la marque Lacoste, qui avait un peu sombré, hein, faut le dire quand même, ces dernières années. Vous l'avez beaucoup relancé. Certains disent que ça joue quand même beaucoup aussi au fait d'une égérie bien choisie, en l'occurrence Pierre Ninet.
Alors c'est sûr que Pierre Ninet, ça aide terriblement parce qu'il est extrêmement connu en France et puis il est au top avec le Comte de Monte Cristo qui est sorti récemment. Donc Pierre Ninet, oui.
C'est pas pour ça qu'il a eu grand chose aux César hier.
Hein, c'est pas. Non, mais d'accord, mais il est quand même extrêmement reconnu, extrêmement bankable comme on dit. Mais Pierre Ninet, c'est surtout en France que ça nous a beaucoup aidé puisque ça a mis Lacoste très très en vue. En revanche, à l'étranger où on a aussi démarré Lacoste et qui fait une partie importante du business, c'est vraiment grâce à la marque Lacoste elle-même, que les produits se sont bien vendus et que Lacoste original a bien démarré.
On pourrait citer également Zidane pour la marque Montblanc. Ça coûte très cher une égérie.
Ça dépend.
Bah quand
non,
même
ça
Zidane.
Dépend. Non. Non, Zidane, c'est, je vais pas dévoiler les prix.
Bah pourquoi,
je trouve que c'est raisonnable.
Nous. Hein, on est entre nous.
Non, ça veut dire quoi, raisonnable ? Il y a des millions de personnes qui vous entendent.
En tout cas, ce qui est intéressant, là aussi, quand on regarde vos résultats, c'est le fait que le marché du parfum continue de fonctionner extrêmement fort et bizarrement, presque un peu partout dans les zones géographiques, alors que le secteur du luxe en tant que tel, on a vu les résultats d'LVMH et encore pire ceux de Kering, vraiment reculer. Comment vous expliquez la résistance du monde du parfum et surtout de ce parfum made in France ?
Alors, il y a deux choses. La chose que je ne m'explique pas, c'est que le marché soit monté terriblement après Covid, à partir des années 22, donc de 2022-2023, le marché a augmenté partout sur Terre, sans raison vraiment. Alors est-ce que les gens se sont remis au parfum ou ont trouvé que c'était quelque chose de bien à avoir? Probablement. Et parallèlement à ça, il y a aussi une chose importante, c'est que le parfum, c'est des images de luxe, mais c'est pas des prix du luxe. C'est des prix de grande consommation. En gros, c'est entre 100 et 150 euros. Alors, c'est pas rien.
Mais quand, cher quand même.
Mais quand vous comparez, avec un sac d'une des marques que vous avez citées, ça n'a quand même rien à voir. Et souvent, si vous prenez les petites tailles, on est autour de 60, 70, 80 euros. Ça veut dire que c'est relativement accessible pour beaucoup de monde. Et ça s'est donc développé de manière importante, comme tous les marchés de grande consommation.
Mais continue de résister. Et vous êtes confiant pour l'avenir.
Ça continue de résister. C'est quand même mitigé pour l'année 25. On est tous d'accord que ce sera une année moyenne.
Alors, une année moyenne, est-ce que, notamment à cause de Donald Trump, puisque le président américain a décidé d'instaurer des droits de douane sur les produits européens à 25%. Alors, pour le moment, on n'a ni le calendrier, ni les secteurs concernés. Mais est-ce que ça vous inquiète et quel plan surtout vous êtes en train de mettre en place pour essayer d'y répondre?
Alors le plan, ce qu'on s'est dit quand on a eu l'information il y a quelques temps, c'est que d'abord on augmenterait nos prix de la moitié seulement des droits de douane, donc ça veut dire qu'on fera probablement plus 10% vers les US et pas plus que ça, puisqu'en termes de grosse margin, si on fait plus 10%, ça devrait aller. Et deuxièmement...
Vous allez un peu rogner votre marque pour quand même que ça reste des produits accessibles, c'est ça que vous nous dites?
Oui. Et on fera aussi 10% de plus au niveau des prix publics, et sûrement pas 25%. Mais il y a une chose qui est importante à dire, c'est que les parfums aux US, il y a une grosse partie des produits qui sont made in France, et le gros du marché, c'est les marques made in France. Donc tout le monde va être logé un peu à la même enseigne. Et donc le fait que tout le monde augmente de 10-15% ses prix publics, ça va faire monter le prix du marché, c'est vrai. Mais on n'a pas beaucoup de compétition américaine locale.
Ce que vous voulez dire, c'est que tout le monde va avoir la même hausse, c'est ça que vous dites.
Oui.
Après, le problème, c'est quand même le pouvoir d'achat américain. Ouais, même si Donald Trump a dit qu'il y aurait des baisses d'impôts, à un moment, ça ne va pas complètement compenser.
Je suis d'accord avec vous. Mais néanmoins, il n'y aura pas de baisse de prix. Enfin, les Américains ne vont pas être spécialement avantagés, puisque même Coach, qui est une marque américaine qui est chez nous et qu'on connaît bien, ou Kate Spade, on a deux marques américaines dans le groupe, et ces marques américaines qui sont made in France, elles sont bien made in France, donc elles vont être taxées aussi à plus 25.
Et dans le reste du monde, il y a d'autres zones d'incertitude, puisqu'on a quand même, vous n'avez jamais travaillé avec autant d'incertitudes en même temps dans le monde, et pourtant ça fait des dizaines d'années que vous êtes à la tête d'Interparfums, groupe que vous avez confondé.
Oui, je suis d'accord avec vous. Depuis 83, on n'a jamais eu autant d'incertitudes d'incertitudes, autant de tensions internationales un peu partout, et même en Asie où c'était quand même plutôt calme, ça l'est moins. Donc c'est vrai, la situation internationale est très compliquée, mais elle n'est pas que pour les parfums, elle est pour tout le monde.
Si on revient un petit peu à la tendance en ce moment du marché du parfum, on l'entendait là dans l'excellent reportage d'Anaël Verzo, notre reporter, sur le marché du cosmétique, où là on cherche de plus en plus la nature, moins de plastique, plus de transparence. Vous, par exemple, il y a une petite révolution, c'est qu'on revient à un parfum que l'on pourrait recharger, ce qu'on avait complètement arrêté. Je crois même que c'était interdit dans certains marchés, notamment pour éviter, pardon de dire ainsi, certains alcooliques de boire du parfum. C'était ça l'idée ?
Alors, ça c'était l'idée, mais c'est il y a une dizaine ou une quinzaine d'années, puisque sur le Middle East, les produits rechargeables ou à vie, c'était interdit pour que les gens ne puissent pas le boire. Donc c'était à pompe et c'était en spray tout le temps. Mmh. Ça a changé et c'était que le Middle East. Donc on pouvait recharger déjà. D'ailleurs, il y a eu des essais de recharge, puisque Angel avait démarré avec ça il y a déjà fort longtemps. Alors aujourd'hui, c'est devenu la tendance.
Thierry Mugler.
Voilà, Thierry Mugler. Aujourd'hui, c'est la tendance de faire des recharges en plus pour que les parfums... sachant que la recharge fait deux fois plus ou moins la quantité du 100 ml que vous allez acheter, mais vous jetez bien la recharge après quand même. Donc on économise un petit peu.
C'est une vraie tendance ou c'est, pardonnez-moi, c'est pour la gloriole ?
Non, je pense que c'est un peu pour la gloriole. Je suis d'accord avec vous.
Il y a aussi un point important. On sait que les consommateurs, là aussi on l'a entendu dans le reportage, cherchent plus de naturel globalement. Est-ce que ça se traduit également dans les nouvelles fragrances que vous utilisez ? Est-ce que vous essayez de localiser beaucoup plus vos productions en France ? Je disais, vous travaillez avec des partenaires à 100% en France, mais bien sûr toute la matière première ne vient pas de France.
Non, elle vient de beaucoup de pays, c'est vrai. Alors nous, on n'est pas directement impliqués, puisque ce sont nos fournisseurs IFF, Givaudan, c'est des noms que vous connaissez ou pas, IFF, Givaudan, Firmenich, qui sont les grandes sociétés de parfumerie, Roberté pour la France, et Man, donc il y a à peu près une dizaine de grandes sociétés de parfumerie, et ce sont elles qui sont sur les matières premières. Nous, on le voit moins. Néanmoins, il y a des législations européennes qui sont en train de passer, qui sont la loi CMR, que vous connaissez probablement, qui interdit de nombreuses matières premières et de nombreuses matières, pas que premières d'ailleurs, des matières travaillées, chimiques.
Vous le disiez, vous n'avez jamais travaillé dans une telle incertitude. Comment on fait quand on est un patron d'entreprise comme vous ? Vous avez trois budgets prévus, un budget conservateur, un budget, dire tiens, si finalement il n'y a pas trop d'incertitudes, on s'en sort, et puis un budget beaucoup plus serré ?
Non, parce que c'est trop compliqué. Il y a un seul budget qui est un budget raisonnable, qui est à peu près de 7-8% de croissance par rapport à l'année précédente. On l'a donné, l'année précédente, on a fait 880, et là on a à peu près 920-925 de budget, et on suit ce budget-là au mois le mois, et a priori on est à peu près dans les clous aujourd'hui.
Eh bien merci. Merci beaucoup Philippe Benassin, président directeur général d'Interparfums, d'avoir eu la gentillesse de passer ce matin dans ce studio dont n'arrête pas l'écho.
On n'arrête pas l'écho. Sur France Inter.
Et on retrouve bien évidemment Sandrine Foulon. Le sujet des petites retraites des femmes sera abordé lors du conclave qui vient de commencer. Stéphanie a souhaité justement, Sandrine, vous poser une question cette semaine. Elle est agent public dans la territoriale. Elle nous a écrit pour revenir sur ce qu'elle appelle une injustice. Pourquoi les fonctionnaires n'ont-elles pas les mêmes bonifications pour enfants que les salariés du privé ?
C'est vrai, aujourd'hui, une salariée du privé totalise 8 trimestres de majoration par enfant, 4 pour la maternité et 4 pour l'éducation, dont 2 qu'elle peut donner au père. Une femme fonctionnaire, elle, n'a plus droit qu'à 2 trimestres par enfant. Pour comprendre ce recul, il faut remonter à la réforme Fillon de 2003. À l'époque, l'argument était de dire que les retraites des fonctionnaires étaient supérieures à celles du privé, que les modalités de calcul sur 6 derniers mois de salaire et non pas sur les 25 meilleures années étaient plus favorables et que les écarts de pension entre agents et agenteux n'étaient pas si flagrants. Les promoteurs de la loi voulaient réduire les inégalités entre les différents régimes. Les femmes ont payé la facture. Celles dont les enfants sont nés avant 2004 continuent de bénéficier d'un an de majoration, mais à condition de s'être arrêtées pour les élever. Pour les fonctionnaires qui ont accouché après 2004, c'est 2 trimestres par enfant, point barre. Ces mères commenceront à prendre leur retraite à partir de 2027 et ces trimestres manquants leur coûteront cher, jusqu'à 14% de moins en moyenne sur leur pension, selon les calculs du syndicat FSU.
Impressionnant. Le conclave va durer 3 mois. Les partenaires sociaux pourront-ils trouver des mesures concrètes pour corriger les effets négatifs des carrières hachées des femmes ?
Oui, alors les retraites de la fonction publique, Stéphanie, ne seront pas vraiment au menu du conclave. Elles feront l'objet de concertations séparées. Ensuite, oui, des idées, il y en a des wagons pour réduire les inégalités ou permettre aux femmes de partir plus tôt. Ces fameux trimestres de majoration pour enfants ne comptent pas pour le dispositif carrière longue. Pourquoi ne pas les intégrer ? On pourrait abaisser l'âge d'annulation de la décote. Davantage de femmes que d'hommes doivent attendre 67 ans pour toucher une retraite à taux plein. On peut améliorer la surcote accordée aux femmes qui ont atteint 63 ans avec tous les trimestres, mais qui sont obligées de patienter jusqu'à 64 ans. On peut aussi augmenter le minimum vieillesse. Le problème est que toutes ces avancées ont un prix.
Ça, c'est un vrai problème.
Ouais, et le cadrage fixé par François Bayrou n'est plus le même. Il ne s'agit plus d'améliorer le système sans dégrader les coûts, mais de rétablir l'équilibre financier à un horizon proche. L'équation va être compliquée quand on sait que les économies générées par le passage à 64 ans sont majoritairement portées par les femmes. En attendant, je rappelle que l'écart de pension entre femmes et hommes est de 26% grâce aux pensions de réversion que perçoivent les veuves. Pour toutes les autres, c'est 38% de moins.
Merci beaucoup Sandrine Foulon. Cette chronique est à retrouver en podcast et sur la page Ma vie au boulot.